Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et de retour sur le plateau de l'UNAM avec Radio Imo et Radio Territoria pour le Forum de l'aménagement durable. On est ravis de vous retrouver pour cette seconde partie de journée. Et j'ai le plaisir d'être avec Corentin Pronost. Bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir sur notre plateau. Donc, vous êtes le directeur du pôle aménagement de Nexity, ville et projet. Et nous allons parler d'un grand sujet, un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, la restructuration des zones commerciales. Donc voilà, on va voir que c'est une opportunité foncière stratégique pour les aménageurs. Alors, avant de commencer, peut-être on va faire une petite introduction sur justement ces zones commerciales. Comment elles se sont développées, ces zones commerciales? De quel constat on est parti pour les développer?
C'est vrai que pour comprendre la situation actuelle, c'est intéressant de regarder comment elles se sont constituées et quelle est la situation aujourd'hui. Les zones commerciales, elles se sont développées à partir des années 60 dans une logique de la voiture pour tous et puis le pavillon pour chacun. C'était une logique de développement immobilier en extension urbaine avec une recherche de foncier finalement pas cher et puis sans contrainte sur des localisations très bien connectées, mais connectées pour la voiture, c'est-à-dire des zones commerciales qui se localisent au niveau des périphéries, connectées aux rocades, aux voies rapides, finalement pas très très loin du centre-ville, mais toujours avec un fonctionnement autour de la voiture. Alors au départ, c'est des zones d'activité, des zones commerciales qui accueillaient les entreprises, les commerces qui ne pouvaient pas s'installer dans les centres-villes, les grandes surfaces,
hypermarchés,
ameublements, etc. Et puis progressivement, elles se sont aussi développées pour accueillir davantage de services, des commerces d'habillement, des hôtels, de la restauration aussi pour beaucoup. Mais le modèle que ça a créé, c'est quand même des zones qui représentent ce qu'on appelle aujourd'hui la France moche, quand même, des entrées de ville avec
un
modèle
joli.
De boîte à chaussures qui a assez peu de qualité urbaine, pas de qualité architecturale. Une absence de diversité programmatique parce qu'on reste quand même pour beaucoup sur du commerce. Et puis, des zones qui sont très étendues avec des parkings importants qui sont dimensionnés pour la période de Noël, pour la semaine de Noël, mais qui ne sont pas toujours complètement occupés et qui posent aujourd'hui des problèmes de fonctionnement et des problèmes aussi écologiques puisqu'il y a une absence de biodiversité, une absence de paysage, d'intégration urbaine, paysagère, environnementale. Voilà, donc les zones commerciales, si on reprend les chiffres aujourd'hui, c'est à peu près 1500 zones commerciales, 500 millions de mètres carrés, ça représente à peu près
en France, cinq fois
la surface de Paris. Et une concurrence qui est créée, qui a été ressentie comme ça vis-à-vis des centres-villes qui, sur le plan commercial, finit par se dévitaliser. Ça, c'est quand même une réalité. Donc il y a eu aussi cette opposition-là entre centre-ville, périphérie, ce qu'on a pu appeler un peu l'effet donut, qui s'est... C'est accentué au fil des ans.
Oui, alors l'effet donut, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors, les tendances ont changé. Ça s'est accentué depuis les confinements, depuis le Covid. C'est vrai que le mode de consommation des Français, les modes de consommation des Français ont évolué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a changé? Pourquoi l'attrait, pourquoi ces zones sont moins attrayantes?
Alors, elles sont quand même toujours attrayantes. Ça, faut quand même le souligner. Je crois qu'il y a... On dit qu'il y a plus de 70% des commerces, enfin des achats en magasin qui sont faits dans les zones commerciales. Donc, il y a toujours un attrait pour les zones commerciales. Il y a toujours des chiffres d'affaires importants qui sont réalisés. C'est d'ailleurs une des problématiques d'intervention sur ces sites parce que les fonciers,
faut pas perturber le
aujourd'hui,
chiffre
sont quand même assez chers. Il y a des questions de perturbation de chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que les modes de consommation ont changé. Les opérateurs commerciaux sont un peu moins dans des logiques d'extension urbaine, mais plutôt... de consolidation des actifs commerciaux en essayant de modifier, de faire évoluer leurs actifs dans une logique d'expérience client qui est plus importante, de commerce qui est plus spécialisé aussi. Et donc, ils trouvent aujourd'hui des opportunités pour réinterroger et retravailler sur ces actifs-là. On est dans le contexte du ZAN aujourd'hui, évidemment, donc zéro artificialisation nette, avec une diminution qui est attendue de 50% de l'artificialisation d'ici 2030 et en 2050, l'application effective du ZAN, ce qui fait qu'aussi le foncier se raréfie, à la fois pour les opérateurs commerciaux, mais pour les aménageurs, pour les opérateurs immobiliers qui trouvent sur ces sites-là un terrain de jeu intéressant. Puis il y a Il y a aussi un troisième élément qui fait que beaucoup d'opérateurs commerciaux ont été amenés à se réinterroger assez récemment. C'est l'obligation, là, depuis 2023,
ah oui,
de réaliser des ombrières photovoltaïques sur les parkings existants qui font plus de 1500 m². Il y a cette obligation-là pour développer les énergies renouvelables, qui est un point auquel on ne peut que souscrire, qui est intéressant, mais qui peut avoir la contrainte de figer des espaces de stationnement qui auraient pu avoir un potentiel pour accueillir des projets.
Oui, parce que les ombrières, c'est des masses. Hein, ça surplombe en fait le parking. C'est au-dessus de chaque place. Et dessus, il y a des panneaux donc photovoltaïques.
Des panneaux photovoltaïques.
Et ça, c'est une obligation donc, pour les parkings de plus de 1500 m². Hein.
Oui, oui. Et la loi est entrée en vigueur. Alors, il peut y avoir des dérogations. Il y a un certain nombre de dérogations. Et notamment, si ces sites-là vont accueillir des projets urbains, des projets d'aménagement. Il peut y avoir des différés ou en tout cas des dérogations, oui, ce qui n'empêche pas d'en faire ensuite dans le projet et par ailleurs. Donc, beaucoup d'opérateurs de foncières commerciales se sont dit que c'est quand même le moment de se réinterroger aussi sur la valorisation de ces espaces et la possibilité d'intégrer ces parkings parfois sous-utilisés dans des projets urbains plus globaux qui vont permettre aussi d'accueillir une nouvelle clientèle, d'élargir la zone de chalandise et puis de transformer, faire muter les commerces eux-mêmes, peut-être en les ouvrant davantage sur les espaces.
Alors aujourd'hui, on l'a dit, hein, les opérateurs se positionnent donc sur ces zones commerciales, donc dans un contexte d'opportunité, mais il y a également des freins, des contraintes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes opportunités et puis quels sont les freins aussi ?
Alors, les opportunités, je pense que la sous-utilisation des parkings ou les opportunités de le réorganiser fait que les opérateurs se questionnent sur la mobilisation de ces espaces-là. On voit qu'il y a des politiques publiques aussi qui ont quand même fait changer la donne. Au niveau local, il y a une volonté, je pense, politique qui est assez forte. Les transports en commun, oui, se sont de plus en plus développés vers les centres commerciaux, vers les zones commerciales de périphérie, avec l'arrivée de tramways, de bus en site propre, qui fait que finalement, ce sont des espaces où on peut se rendre maintenant autrement qu'en voiture.
Et donc puis ça, les changements aussi de mode de consommation. Vous l'avez dit tout à l'heure,
exactement,
les Françaises ont de moins en moins de voitures aussi.
Exactement.
En centre-ville.
Il y a encore beaucoup de chemin à faire, ouais, justement, sur l'évolution des mobilités vers ces zones commerciales. Volonté politique aussi, parce qu'on se rend compte que pour les élus qui veulent construire aujourd'hui, dans les centres-villes ou sur des secteurs qui sont déjà urbanisés, il peut y avoir quand même une contestation assez fréquente des riverains. Et là, c'est des espaces qui sont moins habités. Et ça fait plus consensus, en tout cas, d'intervenir là-dessus. Il y a des enjeux écologiques qui sont énormes de transformation de ces espaces pour réintroduire de la biodiversité, pour changer les mobilités, etc. Mais il y a moins d'enjeux comparativement à d'autres sites comme les friches industrielles. Il y a moins d'enjeux de préservation d'une biodiversité existante parce que justement, par rapport à des friches où la nature a repris ses droits, où on va trouver des zones humides, une faune, une flore qui s'est redéveloppée. Là, ce sont des sites qui sont actifs, qui sont beaucoup bétonnés. Donc, il y a moins ces contraintes environnementales aujourd'hui. Et puis, il y a un certain nombre de programmes à l'échelle nationale comme Action Cœur de Ville depuis 2023, oui, qui a intégré les entrées de ville dans ce dispositif. Donc, ça veut dire qu'on est dans les politiques publiques, en tout cas, moins dans une logique de concurrence aujourd'hui entre centre-ville et périphérie, mais plus dans une recherche de complémentarité.
Et juste quand vous disiez que c'était au niveau local, que c'était des demandes, ça vient des habitants même ?
Ça vient surtout de la volonté des élus de transformer aussi ces entrées de ville qui aujourd'hui ne sont pas belles, de créer du logement, parce qu'il y a effectivement un besoin incontestable de logement. Donc c'est une opportunité de le faire, donc c'est plutôt une volonté politique davantage qu'une volonté des habitants, mais en tout cas il y a moins de contestation des habitants sur des sites comme cela. Et puis sur le plan politique, il y a dans les démarches nationales qui ont été engagées récemment, par exemple l'appel à manifestation d'intérêt pour la transformation des zones commerciales qui a été lancé,
oui,
qui vient d'être désigné, là il y a 74 sites qui ont été désignés. Donc, il y a des aides aussi.
Il y a quelques jours, oui.
Quelques jours, avec des aides qui peuvent aller à partir de 75 000 euros sur de l'ingénierie, des aides au financement de déficits d'opérations. Donc, on voit que voilà, l'effort est porté sur ces espaces-là aujourd'hui pour retrouver justement cette logique de complémentarité par rapport au centre-ville.
Et alors, il y a des freins, vous les évoquiez tout à l'heure, donc c'est des zones où les chiffres d'affaires sont assez conséquents. Et donc, toute opération sur ces zones sont complexes puisqu'ils se posent la question de ne pas perturber, de ne pas faire baisser ces fameux chiffres d'affaires. C'est un des freins, c'est ça ?
Et oui, effectivement. Alors, ce n'est pas du tout des sites en friche, c'est des sites qui, la plupart du temps, sont très bien utilisés, qui sont très fréquentés, et malgré le fait que souvent sur un plan architectural et urbain, on ne retrouve pas la qualité. Il y a des actifs commerciaux qui ont une valeur importante parce que les chiffres d'affaires sont importants, les loyers, la valeur des actifs est importante. Et une des préoccupations des opérateurs commerciaux, c'est aussi de surtout ne pas venir déstabiliser une activité commerciale qui fonctionne, même si de plus en plus, on voit qu'il y a une volonté de leur part de faire évoluer le fonctionnement de ces lieux, de les ouvrir davantage sur l'extérieur. Mais il y a quand même un sujet financier de mobilisation du foncier, là, qui est évident, d'intégration, d'indemnité aussi, de troubles de fonctionnement des activités commerciales, mais fondamentalement...
Ça, c'est la responsabilité de l'aménageur, du promoteur, oui. Ouais. Donc, il y a des indemnités qui sont versées, si jamais...
En tout cas, qui doivent être anticipées, parce que c'est ce que vont attendre les opérateurs commerciaux. Et on va être dans des logiques d'aménagement où... la maîtrise, on ne va pas être sur une logique de maîtrise foncière globale de ces espaces. On va être beaucoup plus dans une recherche pour un aménageur comme nous le sommes, de partenariat avec les opérateurs commerciaux qui eux-mêmes vont essayer de tirer de la valeur de ces espaces, mais jamais dans une démarche d'acquisition de la totalité d'une zone commerciale pour pouvoir la transformer, comme ça a pu être le modèle de pas mal d'opérations d'aménagement.
Voilà. Alors vous, Nexity, vous intervenez évidemment sur ce type d'espace. On va voir comment vous avez signé un partenariat avec Carrefour, donc un accord sur 76 sites en France. Vous avez créé une société commune et donc Carrefour intervient comme copromoteur dans les opérations mixtes que vous réalisez donc sur ces sites. Comment est né cet accord ? De quel constat êtes-vous parti ? Comment ça s'est fait ?
Alors ça s'est fait d'abord par une consultation lancée par Carrefour, parce que je disais que les opérateurs commerciaux, les foncières commerciales évoluent dans leur mentalité, dans leur manière de fonctionner. Carrefour a créé une direction qui s'appelle la direction de la transition urbaine. Donc ça veut dire que c'est pas seulement une question de valorisation de leur parking,
non,
mais c'est vraiment une stratégie qui est portée par Carrefour pour transformer ces espaces commerciaux et en faire des quartiers de ville vraiment.
Donc avec des logements aussi.
Donc avec des logements, avec d'autres fonctions que le commerce, avec des bureaux, avec de l'hôtellerie, en fonction des sites. Donc Carrefour a lancé une consultation à laquelle on a répondu, que l'on a gagné. Donc on a un partenariat aujourd'hui avec Carrefour sur 67 sites en France qui peuvent être des supermarchés, des hypermarchés. Et site par site, la logique est différente et les projets urbains sont vraiment différents.
C'est du cas par cas ? Est-ce qu'on peut dire que c'est du cas par cas ou...
C'est du cas par cas, avec malgré tout, et c'est l'intérêt d'avoir un panier comme ça, un fonctionnement en péréquation, c'est-à-dire qu'il y a des opérations qui, pour Carrefour ou pour le partenaire que nous sommes, peuvent être plus rentables et permettre de faire sortir des opérations qui ont un vrai enjeu urbain et qui sont elles-mêmes moins rentables, qui ne trouvent pas leur équilibre en tant que tel.
L'effet de masse joue sur... Voilà. La mutualisation, en fait.
C'est ça. Ouais. Mais c'est effectivement, projet par projet, justement, des enjeux de création de quartier au cas par cas et des projets qui s'inscrivent aussi dans des dynamiques territoriales qui sont plus globales, puisqu'on travaille toujours avec les collectivités sur des opérations et des réflexions qui ont déjà été lancées. Mais la démarche que Carrefour a, elle est aussi portée par la plupart des foncières commerciales et on travaille avec d'autres opérateurs sur la valorisation de leur site.
Donc concrètement, là pour donner des exemples, donc il y aura des logements, par exemple, comment vont être réaménagées ces zones commerciales là, avec il y aura quoi, des logements, il y aura des peut-être des parcs, des espaces un peu plus verts, des îlots de fraîcheur.
Exactement. Donc évidemment, il ne s'agit pas du tout de faire venir des habitants ou de construire des logements sur un parking de zone commerciale. C'est absolument pas ça, mais c'est d'engager le site dans une dynamique de transformation. Profonde et de création d'un quartier. Donc, qui dit quartier, ça veut dire retravailler sur les sols, créer des espaces publics. Aujourd'hui, on est sur des espaces qui sont complètement introvertis la plupart du temps, qui ont un fonctionnement commercial où le commerce va chercher à capter la valeur de la clientèle, mais de manière interne. Là, il s'agit de retourner complètement ces espaces, de créer des espaces publics, de donner une place importante aux piétons, pouvoir circuler à pied, circuler à vélo, inscrire ces quartiers dans les logiques de mobilité qui sont plus globales. Et il y a trois grands thèmes qu'on développe, c'est les mobilités, aller vers des mobilités qui sont plus décarbonées, hein,
donc,
on ne prenne pas la voiture pour les mobilités douces, le raccordement au transport en commun, c'est la couture urbaine pour raccrocher justement ces secteurs-là à l'environnement urbain beaucoup plus large. Donc la question des mobilités avec un travail aussi sur le stationnement, comment on peut faire pour reconcentrer le stationnement dans des parkings silos, le mutualiser quand c'est possible, notamment quand il y a des programmes qui sont plus mixtes avec du bureau, du logement, qui ne sont pas occupés au même moment dans la journée. Donc les mobilités, la résilience, la question du paysage en fait va être très très importante parce qu'on est sur des espaces complètement bitumés. Donc comment on réintroduit des espaces verts, de la biodiversité, comment on gère les eaux pluviales différemment, comment on fait des quartiers finalement qui sont plus résilients. Et puis l'habitabilité, comment on crée des quartiers où on va pouvoir vivre à côté de ces centres commerciaux, mais dans des logiques beaucoup plus mixtes en termes de programmation, avec tous les services, avec les équipements, sur des espaces qui vont aussi être rétrocédés aux collectivités et qui sont co-construites avec eux dans des logiques qui sont plus...
Et deux questions pour ces quartiers. Est-ce que on pourra imaginer des services publics aussi, par exemple des crèches, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête aussi là-dessus ?
Bien sûr, c'est des opérations véritablement d'aménagement urbain qui sont faites au cas par cas et avec une programmation d'équipement qui est définie complètement en relation avec les collectivités et en fonction des besoins. Sur une opération où on va développer 500, 800, parfois jusqu'à 1000 logements sur les très grosses opérations qu'on peut envisager avec Carrefour. Sur l'ensemble du panier Carrefour, on est sur à peu près 12 000 logements quand même. Donc c'est des enjeux qui sont importants. Bien évidemment, lorsqu'on réalise des opérations comme celle-ci, non seulement on contribue au financement des équipements publics, on en réalise pour partie qui vont être rétrocédés aux collectivités et on accueille des équipements qui sont réalisés.
Dernière question sur ces quartiers, le type de logement, ce sera quoi ? Ce sera des logements privés, des logements sociaux, des logements intermédiaires dont on parle beaucoup en ce moment. Ce sera quel type de logement ? Enfin, pareil, ce sera du cas par cas aussi ?
C'est du cas par cas, mais c'est toujours une programmation mixte.
En fonction du projet de l'élu.
Qui réfléchit en fonction de la stratégie qui est définie par les collectivités, de l'application des PLH. Et c'est jamais 100% de logements en accession. C'est toujours une programmation mixte, travailler avec les bailleurs notamment. Ouais.
Alors Next City s'intéresse beaucoup à un nouveau mode de construction dont Gabriel Attal a parlé, ça fait partie de ses propositions, c'est la construction hors site, puisque vous avez passé un partenariat avec l'un des leaders européens, donc Top Hat. Pourquoi cette stratégie Pourquoi selon vous la construction hors site c'est on va dire le futur?
Alors, c'est le futur parce que la construction hors site, elle cumule plusieurs avantages. Déjà, on va être sur de la construction en bois majoritairement, donc une solution de construction décarbonée. Vous savez que Next City est depuis longtemps le premier promoteur au classement BBCA, bâtiment bas carbone. Donc, c'est une stratégie pour Next City de renforcer sa stratégie construction bas carbone. Mais c'est de la construction hors site en 3D. Qui permet aussi d'aller plus vite et de réaliser des chantiers qui sont plus rapides. Et si on fait le lien avec des opérations qui vont se dérouler sur des sites commerciaux, c'est aussi un moyen d'intervenir pour aller plus vite, de limiter les nuisances de chantiers, limiter aussi les perturbations sur les activités commerciales, puisqu'on parlait des zones de transformation des zones commerciales.
Oui, parce que pour nos auditeurs, ce sont des pans entiers, par exemple, d'un bâtiment qui sont assemblés à l'usine et qui sont amenés déjà assemblés sur site.
C'est ça. Donc, c'est des modules qui sont amenés sur site, qui sont assemblés sur place. Donc, il y a un gain de temps sur les chantiers. C'est aussi...
moins de camions.
C'est aussi moins de camions. C'est aussi des durées qui peuvent être accélérées parce que pendant les phases d'études, pendant les phases normalement qui sont allouées au VRD, etc., eh bien, il y a déjà une partie de la construction qui peut se faire en usine. Donc, c'est des chantiers qui sont plus propres, qui sont plus durables, bas carbone et qui vont plus vite. Et donc, dans nos logiques de transformation des zones commerciales, c'est une solution qu'on a identifiée comme préférentielle. Voilà.
Est-ce que c'est applicable à tous les chantiers, la construction hors site ?
Oui, alors c'est applicable dans l'absolu. À tous les chantiers. Après, là où il faut faire attention, c'est On ne veut pas du tout être dans une logique de standardisation. Ce n'est pas parce qu'on va construire de manière plus massive qu'on va construire pareil. Donc, on veut toujours être dans un cadre de construction avec les architectes, avec les urbanistes et au plus près des besoins du site et dans une architecture qui correspond à ce que l'on souhaite faire. Et ce ne sera pas du tout la même chose si on construit à Marseille ou si on construit à Lille. Voilà, au cas par cas.
Allez, pour terminer, une dernière question au sein de Next City. Est-ce que vous avez des outils en interne qui sont nouveaux, qui permettent de mieux travailler dans ces conditions?
En tout cas, un des outils là, qu'on va mobiliser sur la transformation des zones commerciales, qui nous paraît très important, c'est un outil qu'on appelle Natura City. Nous, c'est un outil interne qui nous permet de mesurer l'évolution de la biodiversité et de l'imperméabilisation des sols sur les projets. C'est-à-dire que là, sur les zones commerciales, on va passer de situation de site très imperméabilisé, complètement bétonné, où l'enjeu va être réintroduire de la végétalisation, donc désartificialiser, et de passer de situation d'îlots de chaleur à des îlots de fraîcheur. Et donc, on a des outils comme ça, par exemple Natura City, de monitoring interne, qui nous permettent de mesurer ça au début, pendant et à la fin, et de partager l'ensemble de ces indicateurs tout au long des projets avec les collectivités locales.
Eh bien, merci infiniment, Corentin Pronost, directeur du pôle aménagement de Next City Ville et Projet.
C'était un plaisir, je vous remercie.
Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Immo et Radio Territoria.